Autre radio, autre culture, bonjour. Deuxième partie de l'émission qui est dédiée à l'ensemble EIA, qui est un groupe de musique médiévale. Alors, nous avons Pierre Bourris, bonjour. Hélène Descarpigny,
bonjour.
Jean-Loup Descamps,
bonjour.
Sophie Vierne,
bonjour.
Et Hervé Maillet,
bonjour. Bonjour.
Alors, nous avions parlé de la musique médiévale, de vos instruments. Maintenant, je voudrais bien qu'on parle de vos concerts. Parce que je sais que vous avez des thématiques et donc vous pouvez faire des concerts différents. Alors, pouvez-vous m'en dire plus ?
Oui, bien sûr. Nous travaillons en fait par siècle, plus ou moins. Disons, c'est un peu caricatural, mais nous avons un programme 15e siècle, je remonte dans le temps, un programme 14e siècle, plutôt axé sur la musique de Guillaume de Machaut et son pendant italien Francesco Landini. Et aussi un programme 12e-13e siècle qui lui est dédié aux musiques des Trouvères et des Troubadours et des Minnesänger. Voilà donc trois programmes qu'on tourne régulièrement, mais ça va s'étoffer, on va un peu diversifier encore les choses.
Au départ, la thématique c'était donc d'être un ensemble de musique pour le musée. Vraiment, il a été créé pour ce musée qui s'appelait donc Ultrae au début. Et l'idée c'était que les gens à la fois puissent visiter les salles pour avoir une idée globale du Moyen-Âge et aussi une idée globale, un peu vaste, des sonorités aussi. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de travailler par catégorie de siècles pour voir à chaque fois au niveau sociologique et musical ce qui s'agençait avec les différentes thématiques du musée. Donc c'est vraiment un rapport entre l'œil et l'oreille qu'on cultive beaucoup, notamment aussi pour les scolaires. Et c'est vraiment une illustration musicale, la chance d'avoir aussi le son qui va avec la thématique du musée.
Il faut savoir que depuis son existence, ce concert qui s'appelle l'heure musicale, on arrive à plus de 1000
depuis. 1000 représentations ?
1000 représentations depuis que ça existe. Donc depuis plus de 20 ans maintenant.
C'est énorme.
Et oui.
Est-ce que vous jouez dans d'autres musées qui sont spécialisés sur le médiéval ou vous êtes axé à Cluny ?
Disons que l'ensemble EIA principalement joue au musée du Moyen-Âge, donc à Paris. Mais nous n'avons pas tellement d'activités extérieures pour cet ensemble. Maintenant, chacun d'entre nous joue dans d'autres groupes et participe à de nombreuses autres activités musicales, même parfois pas seulement dans la musique médiévale, ça peut être dans des musiques très contemporaines aussi.
Alors vous avez, vous avez trois concerts différents, il me semble, non ?
Pour l'instant, on tourne avec trois programmes. Avant, avec l'ensemble Ultrea dans les versions des années précédentes, il y avait entre 10 à 12 programmes. Oui, c'est ça, une douzaine de programmes. Et chaque week-end, eh bien, c'était un programme différent. Donc, c'est des programmes qui étaient rodés, qui étaient joués de nombreuses fois. Là, pour l'instant, avec EIA, eh bien, on a repris le flambeau d'une autre manière. C'est la troisième année maintenant. Et nous avons trois programmes, bientôt quatre.
Et l'heure musicale, du coup, nous avons fait une sorte de carte blanche pour que d'autres ensembles aussi puissent s'associer à cette démarche d'heure musicale. Et donc, il y a notamment les ensembles Discantus à la Francesca, Alta. Donc, d'autres ensembles pour voir d'autres couleurs aussi du Moyen-Âge. Par exemple, la musique vocale sacrée ou alors les hauts instruments. Enfin, chacun a sa thématique aussi. C'est un peu plus ouvert, alors qu'au départ, l'ensemble EIA, qui était donc l'ensemble Ultrea, était le seul qui faisait l'heure musicale. On s'est un peu ouvert sur les autres ensembles et on est ravis de pouvoir partager cette chose-là avec le public, qui est un public régulier, qui est vraiment, il y a des gens qui travaillent dans le quartier, ça dure juste une toute petite heure. Donc le lundi, si vous êtes dans le quartier à l'heure du repas, et ben attrapez un sandwich et venez pendant une heure, vous nettoyez les oreilles, de partir dans un petit voyage et puis repartir au travail avec des idées neuves.
Alors le thème que j'avais vu, moi, c'était troubadour et trouvère. Et vous avez présenté finalement une espèce d'éventail de chansons qui existaient en Occident, plus exactement.
Oui, voilà. C'est-à-dire que c'était une manière de présenter l'évolution de l'apparition de la chanson, comme on peut l'appeler maintenant, c'est-à-dire chanson avec un texte, parfois un refrain, pas toujours, mais dans son origine, donc créée par les troubadours, créée en principe, on dirait, par Guillaume IX de Poitiers, et son cheminement à travers l'Europe et à travers deux siècles. Donc l'appropriation de cette chanson par les trouvères dans le nord de la France, puis des Minnesänger en Allemagne. Donc c'est un voyage qui, bon, on ne le fait pas d'une manière didactique comme ça, du sud vers le nord. Ça bouge à l'intérieur du programme pour des raisons esthétiques et musicales, mais ce sont les trois volets principaux de ce programme.
Et la particularité de l'art musical aussi, c'est qu'il n'y a pas que de la musique, mais il y a une présentation aussi didactique de la période, des instruments, et aussi une possibilité de discuter avec les musiciens après, voir éventuellement de se rapprocher des instruments, les voir de près, les toucher. Enfin, le public est très très proche et on partage cette heure de façon tout à fait conviviale.
Alors dans la thématique, vous aviez plusieurs chansons qui sont extraordinaires. Et là, je voulais me tourner vers notre ami Pierre Bouris pour ce fameux chant. Alors, L'Ancalion, comment vous dites ça?
L'Ancan Ligiorn.
Ligiorn.
Vous voulez dire le texte de la chanson, c'est sur le thème de l'amour de loin. C'est quelqu'un qui, en fait, n'a jamais vu sa bien-aimée, puisque je crois quand il est arrivé là-bas, c'est-à-dire en Tripolitaine, la bien-aimée était aveugle, donc il n'a pas pu la voir. Mais néanmoins, c'est un thème très prenant, celui de quelqu'un qui fantasme sur quelqu'un dont il ne verra jamais vraiment de quoi elle a l'air.
C'est un grand poète qui s'appelle Geoffrey Rudel.
Alors, dans cette interprétation, l'accent, vous l'avez trouvé où ?
Oh, l'accent en écoutant quelques références en Catalogne et puis en Provence aussi, on peut quand même arriver à voir un peu comment se prononçait l'occitan ancien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences d'ailleurs avec l'occitan moderne. Ça devait certainement varier. Le problème des prononciations, c'est que à une époque où il n'y avait aucun moyen de communication, il est certain que d'une région à l'autre, voire d'un village à l'autre, ça devait être très très différent. Mais là, il est vrai que c'est une musique de cour, donc je pense qu'il y avait aussi un peu une forme d'unification, en tout cas dans tout le Midi méditerranéen.
Oui. On va écouter. Pierre, à vous.
Per amor Dieu, l'albergo dell'uomo. Paris, Fuzia Maudilu Paris. Em faret eu non fos amats.
Autre morceau qui m'a également touché, c'est l'Estampille. Alors, qu'est-ce que c'est l'estampille ?
Alors, une estampille est une danse.
C'est le chien.
Une estampille est une danse, et à ce titre, c'est une pièce qui est assez intéressante, puisqu'elle fait partie des rares morceaux de cette époque-là qui est vraiment dédié aux instruments et pas à la voix. C'est-à-dire que c'est un morceau de danse. Estampille, ben, ça vient de l'ancien français estampire, qui veut dire frapper, qu'on retrouve dans une estampe, qu'on retrouve dans Stamp en Angleterre pour le timbre. Et c'est une danse. Estampille, eh bien, signifie probablement que dans cette danse, il y avait des pas frappés. Et nous avons, nous, pour cette troisième estampille royale, nous avons choisi de la jouer d'une manière très douce, à la manière d'une danse, je dirais, d'une danse noble, plutôt que de donner une version, comme il en existe d'ailleurs, des très belles, mais plus populaire, disons, ou villageoise, en tout cas.
Alors, je me tourne vers Sophie, parce que je ne sais pas, est-ce que ça a été fait exprès ou c'est vraiment un terme ? Tout à l'heure, vous vous plaigniez parce que vous aviez un petit problème au doigt et vous aviez dit « Je ne peux plus, je ne pourrai pas extampiller.
» Oui, parce qu'il se trouve que pour avoir une certaine sonorité, je joue la systole soit avec un plectre, selon les morceaux, soit avec les doigts et les ongles. Parce que ça fait office de plectre. Et que là, je me suis cassé un ongle.
Oh mon Dieu.
Donc, c'était un peu bancal. Voilà. Et c'est assez surprenant sur le coup, quoi. Il se trouve que je viens de le casser à l'instant. C'est rare, mais voilà, ça peut arriver. Donc, ça donne un petit plus.
Très bien, on va écouter ce petit morceau de l'estampille qui est joué donc par Hélène aux cornes.
On appelle ça la flûte en cornes.
À la flûte en cornes. Jean-Loup qui sera, alors ça va être à la vielle. Sophie qui sera
à la citole.
Et Hervé aux percussions.
Au DAF, exactement.
Au DAF. Voilà.
Thank you.
Alors nous revenons donc à vos thématiques. Vous avez tout à l'heure discuté sur le fait que vous chantiez des chansons de cour, des chansons d'amour et autres, et peu sur la musique religieuse. C'est un choix ? Comment ça se passe ?
Alors à l'église, pendant tout le Moyen-Âge, les instruments n'étaient pas bienvenus, sauf l'orgue et les cloches. Donc, il se trouve que dans les instruments qu'on a là, il y en a très peu qui étaient susceptibles d'être entendus dans la musique d'église. Donc quand nous abordons la musique sacrée, nous la faisons que aux voix.
Mais vous avez plusieurs morceaux ou vous avez vraiment une thématique sur la musique sacrée ?
Alors non, parce que justement, il faudrait être plus de chanteurs. Donc là, les ensembles Discantus, par exemple, où il y a 5 voix de femmes, ont plus les caractéristiques pour vraiment faire un programme entier avec quand même une certaine diversité de timbres sur la voix a cappella. Voilà, nous, on a préféré prendre la partie profane et privilégier le mélange voix-instrument.
Alors, le morceau que vous allez interpréter tout à l'heure est un morceau donc de musique religieuse qui s'appelle...
L'Agnus Dei de la messe de Machaut.
Vous êtes 4 à le chanter. Mm-hmm. Donc, il y en a un qui fait la voix de basse.
C'est moi, Jean-Loup, voilà.
Alors, c'est toujours dans la thématique de l'heure musicale, parce que c'est un des monuments de la musique médiévale, cette messe de Guillaume de Machaut. Donc, dans notre programme Machaut et l'Ars Nova, c'est très dommage de passer à côté. Donc, on l'a travaillé à 4 voix, mixte pour le coup, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que c'était probablement que des hommes qui la chantaient. Mais ça reste quand même toujours un bonheur de la chanter. En plus, on la chante dans la salle Notre-Dame. Donc, c'est la messe Notre-Dame et c'est toujours un grand moment.
Alors, Hervé, lui, a une tessiture de voix assez particulière, puisque c'est un contre-ténor.
Oui, une voix d'alto. C'est l'équivalent pour une femme d'une voix d'alto.
Voilà.
Ah, donc, c'est donc un registre essentiellement ce qu'on appelle en voix de tête, c'est-à-dire vraiment en haut. On chante plutôt avec la voix de poitrine, ce qu'on appelle. Et ici, c'est l'utilisation des aigus de la voix d'homme.
Ça a l'air tellement travaillé. Est-ce que ça pose...
C'est travaillé, oui. C'est-à-dire que c'est... au départ, on a plus ou moins la voix pour ça. Mais disons que c'est un travail spécifique. Je sais que moi, la première année où j'ai étudié, j'avais beaucoup, beaucoup de mal parce qu'on n'est pas dans un registre naturel. Donc là, il faut aller chercher un petit peu ces notes. Et c'est un travail, effectivement, sur le souffle, comme pour les autres voix. Mais là, peut-être... Un petit peu plus complexe pour nous les hommes.
Très bien. Et donc nous avons Pierre qui chante également dans ce morceau. Moi ce que j'avais remarqué c'est que vous chantiez les mêmes paroles vous deux, c'est-à-dire Jean-Loup et Pierre, et Hélène et Hervé vous chantez autre chose, c'est ça ?
Non, pas dans la Agnus Dei, simplement il y a un décalage dans les paroles.
D'accord.
Sur les voix, mais c'était très fréquent à l'époque. Hein.
C'est l'Agnus, le fameux Agnus Dei en 3 parties qu'on chante toujours, même à l'office, qu'il soit en latin ou en français maintenant, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est exactement le même texte, mais en latin, et qui est réparti d'une manière rythmique très différente, pour la simple raison que Guillaume de Machaut est un peu le pape de l'Ars Nova et de la recherche rythmique de cette époque. Et donc là, dans ses pièces religieuses, il y a été à fond, on peut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé sur les enchaînements de notes, les décalages, tout ce qui fait qu'on a l'impression, effectivement, qu'on pourrait chanter des textes différents, alors qu'on chante la même chose.
D'accord.
Et ça parce que c'est en fait, effectivement, les deux parties les plus graves n'ont pas tout à fait la même fonction que les deux parties aiguës, ce qui était le cas au XIVe siècle. Les deux parties graves avaient encore la couleur de teneur, c'est-à-dire des notes tenues, donc elles ont des notes plus longues. C'est pour ça que les parties du haut sont beaucoup plus fleuries, comme Notre-Dame avec ses grands piliers et aussi toutes ses ornementations. Toutes ces gargouilles, ces choses-là. C'est pour ça que les fonctions sont différentes. On a peut-être l'impression que ce n'est pas le même texte, mais c'est le même texte traité pour deux fonctions de voix différentes.
Très bien, mais nous allons écouter ce chant qui est magnifique.
Qui tu es, ô
Dernier morceau que vous allez nous interpréter. Moi, je voulais que vous en parliez un petit peu. Vous en avez parlé dans la première partie. Et je voulais qu'on le rementionne cette fois-ci. Alors, c'est le chant allemand.
Oui, Morgenwiese. Alors, c'est un chant de Minnesänger. Donc, les Minnesänger sont à l'Allemagne ce que les trouvères sont au nord de la France et les troubadours au sud, puisque c'est une différence de langue au départ. Eh bien, c'est un morceau de Conrad von Würzburg, qui était un Minnesänger de la fin du XIIIe siècle, qui fait partie de la troisième, on appelle ça la troisième période chez les Minnesänger, qui est un texte très, très complexe, qu'on apparente pour les troubadours au Trobarclu, ce qui veut dire, en fait, le Trobarclu, c'est les paroles hermétiques, clos. Clus comme clos, donc difficile à comprendre, quoi, hermétique. Voilà. Et donc ce texte est un texte qui est basé sur un dictat moral très fort, avec des images totalement à la limite du surréalisme. C'est un petit peu poussé de dire ça, mais
non,
dans
non.
Les paroles, hein, Sophie, non. Toi qui connais les paroles, c'est quoi déjà? C'est en étant dans la clairière d'un cœur pur, sache, enfin bon, c'est des images absolument. Inhabituel en tout cas pour la poésie des troubadours et des trouvères.
Alors pourquoi avoir pris la voix d'un contre-ténor pour ce chant ?
En l'occurrence, là, c'était une histoire de registre, je pense. Hein, c'est-à-dire que...
C'est en fait toujours à deux sens. C'est-à-dire, le morceau, on veut l'entendre comment et chanté par qui ? Alors, il se trouvait qu'on essaie d'équilibrer le programme de manière à ce que chaque chanteur ait... un, deux ou trois morceaux en soliste, et puis après des duos et des trios s'il y a besoin pour le programme. Et donc il nous fallait une belle pièce pour Hervé, qui est aussi germaniste, et qui donc appréciait de pouvoir chanter une chanson dans cette langue, en bas allemand.
Ce qu'on appelle en Altdeutsch, je crois. Hein.
Mittelhochdeutsch, oui, qui est le vieux, l'ancien allemand. Donc le choix a été en fait vite fait, puisque cette hauteur correspondait très bien à sa voix aussi. Le fait qu'il aime parler cette langue, et ben voilà, c'était sa chanson. Donc voilà pourquoi il la chante.
Et c'est un chant qui est extraordinaire à écouter. Ne serait-ce que par la pureté et la force de la voix d'un contre-ténor.
Oui, et la mélodie est très très belle aussi, très riche.
Très bien.
So must there be a
Je vous remercie tous d'être venus, d'avoir eu la gentillesse d'interpréter ces morceaux. Je voulais savoir, vous avez des albums, des CD ?
Grand silence frisé, comme on dit. Pas encore. C'est un projet, évidemment, parce qu'on est arrivé à un moment dans notre existence où on aurait bien eu envie de concrétiser certaines choses et de pouvoir la faire écouter d'une autre manière qu'uniquement en concert. Mais c'est une question de moyens, donc j'en appelle là aux nombreux et généreux mécènes qui nous écoutent. N'hésitez pas, par le biais de Autre Radio, Autre Culture, à nous transmettre vos généreux chèques afin que nous puissions enregistrer bientôt ces programmes qui nous tiennent tant à cœur. Merci. D'avance, merci.
Quels sont les prochains concerts ? Alors, par exemple, au mois de juin, est-ce que vous avez des concerts ?
Alors, au mois de juin, oui, le dernier week-end de juin, nous jouons. Enfin, quand je dis week-end, c'est le dimanche après-midi.
C'est autour du 27, je crois.
27 dimanche 27 à 16h30, au musée du Moyen-Âge, qui est place Paul Painlevé dans le 5e arrondissement, en face de la Sorbonne. Et le lundi 28. À 12h30. Donc le programme sera un programme, disons, plus ciblé sur la musique des troubadours et aussi des cantigas de Santa Maria, donc les musiques plutôt du sud de l'Europe.
Bah écoutez, venez nous voir quand vous voulez.
On reviendra. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de l'accueil.
Merci.
Très bien, je vous remercie tous d'être venus. Je vous souhaite bonne route et puis encore de merveilleux concerts aux Musiques Luni. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Radio, autre culture.